En ce temps-là, Jésus faisait route vers Jérusalem et passait aux confins de la Samarie et de la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance, puis élevant la voix, ils dirent « Jésus, Maître, ayez pitié de nous ». Voyant cela, il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Et il advint pendant qu'ils y allaient qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé pour revenir et rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Tiens-vous quelques instants. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Évangile met sous notre regard aujourd'hui 10 lépreux. Je sais que vous connaissez par cœur cette histoire. Moi aussi, enfin du moins je croyais la connaître par cœur. Et ces lépreux, eh bien la mentalité de jadis les tenait pour des maudits de Dieu. Et la loi juive leur imposait un carcan tel que leur vie devenait un enfer. Cette loi était, nous le savons bien, enracinée dans des considérations de bon sens. Il fallait maintenir ces gens en quarantaine de peur que l'ensemble de la communauté soit affectée par la lèpre dont on sait qu'elle est particulièrement communicative et particulièrement virulente. Mais enfin, les légistes avaient, on dirait, pris un certain plaisir à stigmatiser ces lépreux et à les tenir bannis de la cité. Nous ressentons à l'égard de ces lépreux, c'est bien normal, une certaine compassion. Parce que même si dans nos cités modernes, notre Occident moderne, nous n'avons pas de lépreux à la porte des villes, et donc nous n'avons pas eu la possibilité d'en voir des visus, nous avons tout de même en mémoire ces images assez troublantes qui régulièrement ornent nos panneaux publicitaires pour je ne sais quelle fondation qui lutte contre la lèpre. Ou peut-être avez-vous vu quelques reportages, je ne sais, sur Calcutta ou autre, où des mouroirs existent encore et les lépreux s'y trouvent par centaines, maudits de tous, loin de toute société. Nous sommes émus parce que nous savons, nous devinons plutôt ce qu'est la lèpre. Mais voilà, nous oublions facilement que dans ce texte que nous propose l'Église, s'il est bien question de lépreux qui ont un jour rencontré Jésus, de lépreux physiques, j'entends, et qui ont été soignés dans leur corps par le Seigneur Jésus, l'Église entend donner une signification plus profonde. Nous le savons bien à ces lépreux. Ces 10 lépreux auxquels il est fait allusion, ce ne sont pas seulement des malades du corps, c'est symboliquement, ce sont des malades de l'âme, ce sont des pécheurs. Et tous, mes frères, nous sommes lépreux. Alors ne regardons pas seulement ces lépreux comme des personnes extérieures dont il faudrait pleurer le sort, regardons-les en nous coulant dans leur peau, j'allais dire, pas terrible pour des lépreux, mais n'ayons pas peur, allons-y, pour une fois, tel le père Damien ou telle mère Teresa, allons au contact de ces lépreux, et mieux encore, faisons comme mère Teresa et père Damien, mettons-nous à leur place. Et c'est là que, si nous acceptons cette interprétation symbolique de l'Écriture, qui ne retire rien au récit historique de ces 10 lépreux qui ont un jour, en Galilée, aux confins de la Samarie, rencontré notre Seigneur et qui ont été guéris dans leur corps, si nous acceptons d'entrer plus profondément dans le texte et d'y déceler le sens métaphorique, alors nous tirerons un jus et un enseignement pour notre vie spirituelle. Et nous serons, du coup, tiré de la torpeur de notre pauvre société qui nous anesthésie quant au péché et à bien d'autres points encore. Je voudrais insister sur 3 points que ce passage de l'Évangile souligne quant à notre vie spirituelle et qui sont 3 contrepoints à ce que la société ne cesse de nous proposer sur un mode totalement fallacieux. Notre société, premièrement, a perdu le sens du péché. Alors cette histoire des 10 lépreux vient raviver en nous ce sens du péché, ce sens de la gravité des actes mauvais. Nous vivons dans une société qui a perdu le sens du péché, je parle à des convaincus. Donc je ne m'étends pas trop, on rappelle facilement, on confond facilement le bien et le mal, et de situations de fait même graves qui au début sont déplorées, petit à petit on passe à des situations qui sont tolérées, et qui, bon an, mal an, entrent dans les mœurs et deviennent légaux, donc légitimes. Cette société qui mélange le vrai et le faux, le bien et le mal, et qui fait passer le vice, le péché, pour la vertu. On rechigne, du reste, à être conséquent, c'est-à-dire que, par une perte générale du sens de la responsabilité, chacun estime qu'il n'a pas à essuyer les conséquences de ses actes. On pose des actes, on a une conduite au gré des instincts, qu'importe les conséquences, pourvu qu'on ne me les attribue pas. Alors face à cela, cette perte générale du sens du péché, eh bien, l'Église se sert de ce passage des 10 lépreux pour nous faire prendre conscience, en nous comparant à des lépreux, de ce qui n'apparaît pas toujours à notre regard, la gravité, j'insiste, du péché et la gravité de tout péché. Cette comparaison a une fin pédagogique. C'est un peu comme si l'Église, qui est notre mère, nous disait « Tu sais, mon fils, la répulsion que tu éprouves spontanément à l'égard des lépreux corporels, des lépreux dans leur chair, elle est bonne, elle est normale. Mais cette répulsion, tu devrais aussi l'éprouver à l'égard de ta propre lèpre, qui est une lèpre spirituelle et qui a des conséquences bien plus graves que les conséquences de la lèpre physique. » Je crois que, vraiment, cette comparaison est fructueuse. Pas plus qu'il n'y a de petites lèpres, personne n'oserait dire cela. Pas plus qu'il n'y a de lèpres bénignes. Aucun médecin n'aurait le culot de déclarer une lèpre bénigne. La lèpre, on le sait, c'est cette maladie gravissime qui vous ronge et qui finit par vous tuer. Vous voyez, on pourrait considérer que le péché, lui, il y a des petits péchés bénins. Songeons à cette expression toute mignonne, hein, justement, le péché mignon. Bien sûr, le péché mignon. Pas plus qu'il n'existe de lèpre bénigne, il n'existe de péché bénin. C'est une maladie mortelle que le péché. Peut-être qu'il existe une distinction bien connue entre les péchés véniels et les péchés mortels, mais à force de laisser se développer cette plaie, cette lèpre du péché véniel, d'en tolérer l'existence, parce qu'après tout, elle ne fait de mal à personne, et personne n'en connaît l'existence. Un petit péché caché, allons-y. Un petit coup dans le placard pour aller piquer quelque chose, un petit coup dans la caisse pour aller piquer quelque chose, personne n'y voit rien. Une petite image impure sur Internet, ma foi, ça n'a jamais nui à personne, bien sûr. Mais petit à petit, si l'on y prend garde, une accumulation de ces petites inclinations mauvaises corrompt totalement notre nature. Et nous nous retrouvons dans la situation d'un lépreux. Nous n'avons plus de doigts, plus de mains et bientôt plus de bras. C'est pour ça que l'Église se sert de cette comparaison, pour nous heurter, pour nous réveiller. Il n'y a pas de petit péché. De même que la lèpre ronge progressivement, elle est vicieuse cette lèpre. Au début, elle vous laisse intacte, et puis on décèle des taches, et petit à petit, des trous. Le péché opère de la même manière, d'une manière vicieuse. Alors, attachons-nous à repérer la racine du péché pendant qu'il en est encore temps, pendant que ces petites inclinations ne sont pas trop compromettantes pour notre nature, et arrachons le mal à la racine comme on le ferait pour la lèpre. Par ailleurs, nous sommes effrayés par l'ostracisme qui touche les lépreux, c'est-à-dire le fait qu'ils soient mis au banc de la société. Nous avons raison, l'homme est fait pour vivre en communauté, il est atroce qu'il soit poussé par la lèpre à se retrancher de la communauté et à ne vivre qu'avec d'autres lépreux, qu'avec ses congénères, dans une situation désespérante. Mais analogiquement, le péché opère la même chose, le même ostracisme. Non pas que le pécheur soit mis au banc de la société, encore que ça arrive parfois, mais qu'il soit mis au banc de la société surnaturelle qu'est la communion des saints. Et ça arrive systématiquement. Lorsque nous faisons des petits péchés, nous entaillons la communion des saints. Lorsque nous posons des actes graves, des péchés mortels, alors nous nous coupons de la communion des saints. Vous voyez que ce rapprochement avec la lèpre est tout à fait parlant. On peut se laisser frapper par le parallèle entre la lèpre et le péché, nous laisser réveiller pour que le sens du péché réapparaisse en nous. Mais bien sûr, l'Église ne vise pas à nous pousser au désespoir, simplement en nous montrant ses plaies, pas plus que les fondations qui luttent contre la lèpre ne veulent pousser au désespoir les Occidentaux que nous sommes, en nous montrant des images des lépreux. Le but est de sauver, le but est d'en finir avec le fléau de la lèpre, et bien le but est d'en finir dans cette interprétation symbolique de l'Écriture que l'Église nous propose, le but est d'en finir avec le péché. Et pour en finir avec le péché, il faut passer par la miséricorde, et plus précisément par le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Et on trouve, donc c'est mon deuxième point, on trouve non seulement le sens du péché, mais on trouve également le sens du pardon, le sens de la réconciliation avec Dieu et un enseignement sur le sacrement de pénitence. Notre société a perdu non seulement le sens du péché, mais elle a perdu le sens du pardon. Quand on voit la manière dont on traîne dans la boue telle ou telle personne qui a posé un acte plus ou moins grave, et quand on voit que cette personne ne pourra jamais se relever, parce que jamais on ne lui pardonnera ses actes passés, on peut dire que notre société a perdu le sens du pardon. Lorsqu'on sait que notre société est commandée par des principes de compétition, par des principes d'efficacité, puisqu'on est en pleine effervescence des sciences expérimentales, il n'y a pas de place pour les anomalies, il n'y a pas de place pour ce qui n'est pas efficace. Alors on taille. Et on le sait, le jeu économique actuel est redoutable pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas les moyens de lutter. Alors, pour nous redonner le sens du... Et parallèlement, oui, paradoxalement, j'oubliais quelque chose, parce que je sais que certains ne manqueront pas de me faire l'objection en sortant d'ici. Il y a également, paradoxalement, un pardon systématique à l'égard d'un certain nombre de péchés. Et certaines personnes, bien en vue pourtant, se voient pardonner ce qu'on ne pardonnerait pas à d'autres. Vous voyez que c'est très paradoxal. On est très étroit en général, et à l'égard de certains, on est d'une largesse défiant toute concurrence. Alors, pour nous rappeler le sens du pardon, pour nous montrer l'importance du sacrement de pénitence et de miséricorde, eh bien l'Église se sert de ce texte pour mettre en avant quelques joyaux de notre belle doctrine, de notre belle religion. Elle veut restaurer un sens équilibré du pardon divin. C'est bien qu'à l'époque de Jésus, le sacrement de pénitence n'existe pas encore. Je ne suis pas en train de vous dire que Jésus donne un cours de catéchisme à ses lépreux sur le sacrement de pénitence. Je vous dis simplement que l'Église, a posteriori, dans son interprétation légitime conduite par le Saint-Esprit de ce passage, tire un enseignement sur le sacrement de pénitence. La perspective générale du sacrement de pénitence nous est donnée, c'est-à-dire la spontanéité divine à pardonner. Regardez ce Jésus qui... À peine les lépreux venus à lui et s'écriant qu'ils veulent être guéris, s'exécutent finalement. Jésus est, à longueur de page de l'Évangile, touché par la situation du pécheur. Il dénonce le péché, mais toujours, il écoute, il rencontre, il n'a pas peur de ce contact avec le pécheur. Dans quelque situation que ce soit, Zachée, la femme pécheresse, n'importe quelle personne trouve auprès de lui une oreille attentive, pourvu qu'elle soit... cette personne un peu respectueuse de l'identité du Seigneur, voyez. Cette conduite du Seigneur Jésus est faite pour rassurer le pécheur. Et c'est bien comme ça qu'il faut considérer le sacrement de pénitence. C'est pas le tribunal divin. L'abbé Laguéry racontait qu'il connaissait, dans son enfance, un curé qui était assez autoritaire, qui impressionnait beaucoup les enfants parce qu'il... Lorsqu'il les faisait passer au confessionnal, il leur disait, tout en coiffant sa barrette, « Maintenant, je vais te juger. » Alors, bon, l'abbé Laguéry avait les reins solides, son frère aussi, et sa famille avec eux. Je pense qu'un certain nombre d'entre leurs condisciples du catéchisme ont claqué la porte assez rapidement de l'Église. Parce que, toujours, il faut garder cette conception très douce d'un Seigneur qui est prompt à pardonner. Et ça, toute l'Écriture en témoigne dès l'Ancien Testament. Le seul petit effort que Jésus demande à ses lépreux, finalement... c'est d'aller se montrer au prêtre. Alors ça, évidemment, en perspective chrétienne, c'est aller se montrer au prêtre pour en recevoir l'absolution sacramentelle. C'est tout ce que Dieu nous demande, d'aller rencontrer le prêtre, de se mettre à genoux, de confesser avec autant de discernement que possible nos péchés, afin d'obtenir l'absolution sacramentelle, ce qui ne manque pas de tomber la plupart du temps. Non pas parce que le prêtre est d'une largesse incroyable, mais parce qu'après tout, les péchés que nous confessons ne sont pas... irrémédiablement l'obstacle à l'amitié divine. C'est donc un petit effort. C'est ce que font les 10 lépreux. Les 10 lépreux sont prêts à aller rencontrer le prêtre. On a vite fait de taper sur les 9 lépreux qui ne reviennent pas voir le Seigneur. Ces 9 lépreux, ils ont quand même le courage de marcher à la parole de Jésus. Ils n'ont pas encore été guéris et ils acceptent en toute confiance de se rendre auprès des prêtres. Et ils obtiennent, chemin faisant, leur guérison. Ce qui montre qu'ils avaient déjà une bonne inclination. Ils étaient prêts à rencontrer le prêtre pour en obtenir l'absolution façon de l'époque, c'est-à-dire pas encore l'absolution sacramentelle. Cependant, ce que ce petit évangile met en évidence également, et on y insiste souvent, c'est que ce petit effort, tout louable qu'il soit, ne se suffit pas à lui-même. Ne croyons pas que nous pourrons gagner le ciel à force d'aller au confessionnal uniquement en confessant un minimum de péchés et en recevant l'absolution sacramentelle. Nous pourrions faire cela tous les jours. Si notre démarche n'est pas animée de la contrition, nous n'aurons rien. Et pourtant, nous aurons obtenu l'absolution sacramentelle. La contrition, vous le savez, c'est le regret de nos fautes. Je n'insiste pas, tout le monde a reçu les cours de catéchisme dans cette noble assemblée. Et vous savez très bien ce qu'est la différence entre une contrition parfaite et une contrition imparfaite. Voilà, il semble que ce qui est nécessaire pour aller au ciel, ce soit la contrition parfaite. Et tant que nous n'aurons pas cette contrition parfaite, si nous mourons en contrition imparfaite, ce qui est déjà bien et ce qui est de Dieu, la contrition imparfaite, c'est regretter ses fautes parce qu'on a peur d'aller en enfer. La contrition, je fais court, la contrition parfaite, c'est regretter ses fautes parce qu'on est blessé d'avoir blessé Dieu. On s'en veut d'avoir posé des actes contre Dieu qui nous aime. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus noble, cette contrition parfaite. Et c'est cette contrition parfaite qu'il nous faut pour aller au ciel. Tant que nous ne l'aurons pas, eh bien, nous passerons un petit temps au purgatoire si nous mourons avec la contrition imparfaite tout de même. Cette contrition parfaite, c'est celle de l'unique lépreux qui revient voir le Seigneur Jésus. Il revient voir Jésus et cette contrition suffit à le justifier. Je ne sais pas si vous y avez prêté attention. Les 10 lépreux vont se rendre auprès des prêtres, ils n'ont pas encore été guéris. Chemin faisant, ils sont guéris. Alors même qu'ils n'ont pas rencontré ces prêtres. Le lépreux en question, qui revient voir Jésus, quitte ses condisciples encore plus tôt. Il se voit guéri, il revient tout de suite voir Jésus, il se prosterne devant lui. Il n'est pas allé voir le prêtre. Ce qu'il a sauvé, parce que Jésus lui dit qu'il est sauvé, c'est sa contrition parfaite. C'est un point qu'on néglige souvent. On a raison, parce qu'il vaut mieux être pessimiste qu'optimiste en matière de pénitence, comme ça on ne fait pas de bêtises, mais je voudrais quand même rétablir la vérité. Parce que l'Église, notre mère, nous enseigne que si nous posons un acte grave et que nous avons la contrition la plus parfaite qui soit ou la moins imparfaite, pourvu que nous ayons la claire volonté d'aller voir le prêtre dès que possible, dès que nous avons la contrition, c'est-à-dire avant même d'avoir rencontré le prêtre, alors nous sommes justifiés. C'est-à-dire nous sommes rétablis en état de grâce. À ceux qui douteraient, je peux donner les références dans le Concile de Trente de ce que je viens d'avancer. C'est quelque chose qui est formidable pour la vie spirituelle. Que dans cette région, vous avez peut-être difficilement accès aux prêtres et que peut-être, parfois, vous posez des actes graves, ce qu'à Dieu ne plaise, eh bien, n'attendez pas d'aller voir le prêtre. Prosternez-vous au pied de Jésus comme ce lépreux qui revient le voir. Demandez pardon. Demandez la contrition parfaite, et alors vous serez déjà rétabli dans l'état de grâce. Ce qui ne vous dispense pas d'aller voir le prêtre dès que. Mais c'est quelque chose qui est très important pour la vie spirituelle. Parce que sinon, on tombe dans une espèce de mécanisme un peu dangereux. Je me suis coupé de la grâce, alors ma foi, bon, puisque je ne suis plus en état de grâce, je n'ai plus l'oreille du bon Dieu, je suis coupé de la communion des saints, ben, tant qu'à faire, autant tout débrancher, et jusqu'à rencontrer le prêtre, c'est-à-dire au temps pascal, eh bien, laissons-nous aller, et ça c'est terrible, ça provoque la mort de l'âme, c'est la lèpre. Alors, enrayez la lèpre tout de suite, comme le lépreux l'a fait avec Jésus, demandez la contrition parfaite, n'attendez pas d'aller voir le prêtre, et vous serez rétabli l'état de grâce. Voyez donc que vraiment, Dieu est très large sur la pénitence, Dieu est vraiment très large sur la possibilité de se rétablir dans l'amitié divine pour guérir de la lèpre. Troisième point, je finirai par là, ne vous inquiétez pas, notre société a perdu le sens du péché, notre société a perdu le sens du pardon, et l'Église, à travers cette histoire des 10 lépreux, essaye de rétablir la vérité, le rétablit et nous essayons de comprendre. Troisième chose, nous avons perdu le sens de la reconnaissance et de la gratitude. C'est le point essentiel, je pense. Tout est dû au petit bonhomme ou à la petite bonne femme, façon début 21e. Tout est dû. Nous n'avons que des droits, que, à longueur de journée, nous retournons à toutes les personnes qui sont autour de nous, à toutes les institutions qui nous entourent, à travers des circuits juridiques qui nous permettent d'attaquer n'importe qui, n'importe quand, et nous avons des droits, et uniquement des droits, à l'égard de Dieu même. Alors, l'Église vient rétablir la vérité sur ce point, en nous expliquant, en nous donnant un enseignement sur la prière, en nous montrant que la prière préférée de Dieu, celle qui touche son cœur, celle du lépreux qui vient revoir Jésus, Ce n'est pas tant la prière de demande, ce qui est déjà bien, et ce qui distingue le chrétien du reste des hommes, ou plutôt même l'ensemble des croyants, soyons larges, et les païens. Nous avons au moins, nous autres croyants, cette reconnaissance qu'il existe un Dieu en qui nous avons confiance et que nous prions pour lui demander quelque chose. La prière de demande est bonne. Les 10 lépreux touchent le cœur de Jésus. Vous savez que Jésus se fait affecter, il se laisse blesser par la maman du jeune homme qui est mort, la femme, la veuve, je ne sais plus, de Naïm, voilà, c'est ça. Et on nous dit que Jésus est frémi jusque dans son esprit. Il se laisse toucher par Marthe et Marie lorsqu'elles viennent de perdre leur frère. Jésus pleure. On voit ce Jésus qui est prêt vraiment à exécuter les moindres de nos petites demandes comme des parents qui sont follement amoureux de leurs enfants. Mais la prière qui plaît par-dessus tout à Jésus, à son Père et à l'Esprit-Saint, c'est la prière de louange, c'est la prière d'action de grâce. Le seul qui s'y livre, encore une fois, dans l'Évangile, c'est le lépreux qui revient voir Jésus. Cette prière de reconnaissance est magnifique. Cette prière de reconnaissance, c'est la prière de la